Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 24e épisode de Torréfaction. Alors, Torréfaction un peu à la bourre cette semaine, mais c'est ma faute, hein. C'était pas très bien hier soir, donc on n'a pas pu enregistrer l'épisode. On fait ça à la route dans l'après-midi du vendredi.
Tranquillement, tout va bien, de toute façon c'est pas grave, ça vous fait un truc à écouter et puis bon, je suis sûr que ça va bien se passer.
Mais oui, on va commencer tout de suite avec du gaming et la fin de la VR du côté de chez CCP.
Ouais, à quelle surprise.
Ça, vraiment, c'est étonnant. Ça marche pas la VR.
C'est génial, c'est l'avenir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe très concrètement? Bon, alors CCP, on va pas flinguer la VR parce que CCP, donc la réalité virtuelle, hein, pour ceux qui ne suivaient pas, parce que CCP arrête tous ses projets dédiés VR et ferme tous les studios dédiés VR actuellement. Donc CCP, ils ont déjà fait des trucs un peu musclés sur des projets qui n'étaient pas VR. Spécifiquement, ils sont assez champions pour lancer des gros trucs et puis finalement se dire je le sens pas. On coupe tout. Mais là le problème c'est qu'ils avaient été assez forts en se disant tiens, on va faire des combats spatiaux en VR, ça va être de la balle et tout, et c'était vachement bien. A priori c'était quand même pas mal, hein, tu vois. Moi je les ai juste essayés, les jeux VR, mais fondamentalement là ils viennent de se rendre compte que le marché était pas là, que les ventes de casques VR ne suivaient pas, et que du coup bah il fallait bien à un moment tirer les conclusions et arrêter d'investir des millions sur des trucs qui de toute façon physiquement ne pouvaient pas être rentabilisés puisque le marché n'était pas là. Et du coup, bah ça s'arrête. Donc là, ils ont cuté absolument tout, sachant qu'ils faisaient des jeux VR pour les Oculus et compagnie, mais aussi pour les masques avec les téléphones Samsung et compagnie. Ça, poubelle, fini, terminé. Et quand on regarde leur catalogue, pour l'instant, à part Evan 9, il y a quand même pas grand-chose. Donc, j'imagine qu'ils sont en train de recentrer, mais a priori, ils ont plus aucun studio. Si je dis pas de bêtises, je compte sur vous pour m'insulter sur le forum si je me plante. Mais a priori, il n'y a plus de studio hors Islande chez CCP quand le ménage sera terminé. Donc, à voir.
Du côté de Sony, il y a des news aussi. Ils ont fait une présentation avant la PGW, la Paris Games Week.
Avant la Paris Games Week, il y a eu une conférence Sony où ils ont présenté un peu le line-up de ce qui allait arriver sur PlayStation 4 bientôt. Mm-hmm. Alors, je voulais en parler rapidement parce que, globalement, il n'y a pas de truc où tu te dis, il faut une PS4 maintenant. Mais c'est quand même intéressant, tu vois. Donc, le trailer qui a fait le plus sensation, je pense que c'est Last of Us 2.
C'est Last of Us partout, même si j'ai bien
partout,
lu.
Partout, ouais, exact. Oui, parce que tu sais, faut cinématiser tout ça.
C'est ça.
Ça se dit, ça, je sais pas si ça se dit.
Si, ça se dit, je pense.
Bon, magnifique. Pourquoi? Parce qu'en plus, le trailer est ultra violent. Il y a du coup de marteau sur les bras. C'est comment dirais-je? On se flingue, mais à l'ancienne, tu vois. Plutôt mode homme des cavernes. Et comme évidemment la civilisation va pas très bien en ce moment, j'ai envie de dire ça fait sens. Et tout le monde était là genre oui vraiment, est-ce qu'on est obligé de faire des trucs aussi violents tout le temps? Ça va avec le thème du jeu, j'ai envie de dire. Alors est-ce qu'on est obligé de vendre le jeu et donc de faire un trailer là-dessus? Je ne sais pas, parce que on est dans l'ambiance pendaison, etc. Donc je pense que il est bon esprit. Si vous l'avez pas vu le trailer, allez-y, vous allez voir, ça va vous mettre de bonne humeur. Mais c'est le truc qui m'a le plus intéressé, même si le gameplay du premier m'a jamais tant fait rêver que ça. Ça reste une histoire et des persos intéressants, et puis Naughty Dog, ils ont un savoir-faire sur PlayStation qui est impressionnant. Sinon, dans les trucs que j'ai retenu, il y a le reboot de Shadow of Colossus.
Encore.
Donc là, tu vois, celui-là, c'est easy. Voilà, je pense que à chaque nouvelle console, ils vont nous le faire. Moi, je l'avais acheté déjà en reboot sur PS3. Donc, je peux vous dire, il était avec Ico. C'était un dual Blu-ray ou DVD, whatever. Et c'est un jeu qui est quand même très intéressant parce qu'il est joli, donc il présente bien en bande-annonce. Mais en gameplay, on va pas se mentir, je trouve qu'il est quand même très overhyped. Je pense qu'on s'en lasse quand même, mais on est avec plusieurs potes, on est toujours dit, il est joli, mais bon, au bout de 5-6 Colossus, t'as un peu fait le tour du truc.
Ouais.
Donc bon, bref, en tout cas, ça ressort. Pour l'instant, en plus, les gens qui ont joué se sont dit, c'est bien, mais il est en HD et tout, mais il est quand même très buggé. Donc pour un jeu qui est en réédition, c'est un peu surprenant, mais bon, voilà, il y a un peu de taf. Et sinon, dans les démos, on vous mettra des petits liens dans la news, qui est dans le billet qui va avec ce podcast. Il y a Far Cry 5 avec une démo en coop qui est assez intéressante à regarder parce que bah Ubi pareil un peu comme Naughty Dog ne démérite pas à niveau graphique. Donc c'est super joli, est-ce que ça sera super fun à jouer, je ne sais pas, le jeu n'est pas sorti, on va se calmer. Un autre truc qui était joli mais où on va se calmer tout de suite, c'est Détroit, hein, avec notre ami David. qui va nous faire un gameplay à la livre dont vous êtes le héros,
c'est ça, clipé, avec une histoire qui tient pas debout,
c'est
des,
ça,
des twists improbables à la fin.
Bon, en plus là il s'attaque à des trucs où je suis hyper inquiet étant donné qu'il a tout écrit, mais je ne voudrais pas jeter la pierre, mais apparemment il y a violence domestique et compagnie. Voilà. Donc je pense que
encore de la joie de vivre dans le jeu vidéo là.
Ouais, il va y avoir du pathos, ça va être sympa. Donc quand vous en aurez ras le bol de tout ça, ben vous regarderez la démo de Spider-Man qui là s'annonce assez rigolo. Ils ont fait une bande annonce en plus où ils ont un peu mieux caché le côté Quick Time Event, qui moi me fait flipper dans ce genre de jeu parce que je déteste ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai détesté God of War, qui était aussi, enfin j'ai toujours détesté God of War alors que j'avais envie d'y jouer si tu veux, parce qu'il y a trop de combos à faire et que ça me saoule en fait. La démo du prochain est cela dit aussi présentée et c'était vachement intéressant. Donc voilà, regardez ça. Le dernier truc un peu marrant avec une démo absolument sans gameplay, c'était Ghost of Tsushima, qui en fait combine un peu tous les poncifs du Japon japonisant dans le jeu vidéo, mais c'est fait par Sucker Punch. Alors bon bah je leur donne le bénéfice du doute parce qu'Infamous c'était quand même pas mal. Et donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, grosse conférence par rapport à ce que Microsoft présente sur sa Xbox One X qui vient de sortir où il y a à peu près zéro jeu. Tu dis que Sony est quand même en meilleure forme et en meilleure position parce que là la problématique de Microsoft sur sa nouvelle console, enfin sur sa version évoluée de la Xbox One, c'est qu'il y a vraiment aucun contenu spécifique. C'est ce que disent tous les tests actuels et les mecs se disent même les trucs refaits en 4K, tu vois pas tellement la différence. Donc quel est l'intérêt? Donc ça va être compliqué, voilà. Et puis bah donc la Paris Games Week se termine ce week-end. Si vous voulez voir comment ça fait de naviguer dans des couloirs remplis de petits gnomes mal élevés, c'est génial. Allez-y, faites-vous plaisir.
Nous on n'y sera pas.
Nous on n'y sera pas. On esquive un peu, j'avoue.
Tu voulais faire un peu de copinage?
Ouais, du copinage, monsieur, pour parler d'un Kickstarter. Alors tu sais, les Kickstarter et moi, depuis certains jeux, on a pris nos distances.
Pas trop.
Mais là, il y a un truc qui s'appelle Saint-Georges, qui est fait par des copains qui sont des grands fans et des vieux fans talentueux de Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, Black Tiger, Castlevania.
Des jeux faciles, donc.
Voilà, qui aiment les side-scrollers un peu velus, un peu, tu vois, qui te font un peu crisper, mais beaucoup plus lent, beaucoup plus posé que des Dead Cells et compagnie. On n'est pas du tout sur le même genre de gameplay. On est sur des gameplay un peu plus old school, mais assez sympa. Ils ont fait un Kickstarter qui, on va pas se mentir, non plus a du mal à décoller, parce que ils ont pas eu beaucoup de relais dans la presse. On est aussi là pour ça. La grosse différence avec plein de Kickstarter, toute référence à des jeux spatiaux serait complètement fortuite, qu'on attend depuis 5 ans. Eux, ils ont un prototype qui tourne. Ils ont pris 8 mois pour faire un vrai prototype qui est disponible sur Steam. Donc vous pouvez le télécharger, voir la gueule que ça a et décider si vous voulez voir le truc en entier, fini, etc. Donc le deal est quand même assez propre. Si ça vous plaît pas, ça vous plaira pas en version finale. Et si ça titille votre fibre de gamer, ça sera le moment de lâcher un peu quelques sous. Il y aura le lien dans la news qui va avec ce billet, évidemment.
Bon, parfait. Et puis je voulais terminer cette section gaming avec juste une petite note au passage. On parlait des loot box il y a pas longtemps, on disait à quel point c'était de la merde.
Quelle
et curieusement, alors apparemment, devine qui y aurait pensé, c'est nos amis d'Activision pour le prochain Call of Duty, donc c'est Call of Duty World War 2 qui a priori donc aurait des loot box. Alors, d'après ce qu'on a comme info là, ce serait que du truc cosmétique, mais bon voilà, ça commence, ça arrive aussi dans les gros porteurs et c'est pas
sûr.
Vraiment une surprise.
Bah non, étant donné que Activision, je te rappelle que ce sont les papas de Blizzard, et du coup vu comment ça rapporte des thunes dans la colonne Excel d'à côté,
ils auraient tort de se priver.
Bah oui.
On va passer aux apps avec Apollo.
Oui, Apollo, donc, qui est une application iOS pour aller naviguer sur cet océan d'informations qui s'appelle Reddit. Alors, il y a à boire et à manger sur Reddit, surtout à boire et parfois à manger des trucs un peu nauséabonds, on est d'accord. Mais ça reste un truc intéressant.
C'est pas 4chan, quoi.
C'est pas 4chan, ça va. Il y a des vrais trucs. Donc après, tu vois, c'est génial parce qu'il y a son propre porno. Moi, je vais sur le forum Mechanical Keyboards où il y a des mecs qui claquent mais le PEL de continent entier pour s'acheter se monter même des claviers de A à Z qui sont hallucinants. Il y a si vous aimez la musique, musique, je vous conseille d'aller voir les tarés du forum audiophile qui vont vous expliquer les fameux câbles à 1000 euros qui sont vachement bien. Mais à part cela, il y a aussi des gars qui se font des setups assez hallucinants. Moi, vrai, moi j'aime bien, mais pour naviguer correctement sur Reddit, bah déjà je supporte pas la version web, donc c'est réglé. Et sur téléphone, sur iOS, pendant très longtemps, on a eu des trucs qui s'appelaient Alien Blue, qui étaient pas mal, qui a été racheté. En fait, le développeur solo de ce truc-là a été embauché par Reddit pour faire l'appli officielle, que je trouve pas génial parce qu'ils ont voulu faire un truc grand public, etc., et que je suis pas fan. Et il y a donc un jeune développeur qui a fait un bon petit stage chez Apple, qui s'est dit « Ah, mais attendez, je ferais bien un truc sur iOS, mais en respectant toutes les guidelines de dev application iOS, pas tenter de faire un truc qui fasse iOS, Android et tout, comme essaye de le faire quasiment toutes les applis. » Et du coup, il a fait un truc qui est vraiment sympa, qui est gratuit à télécharger et avec des limitations évidemment. Et pour tout débloquer, ça coûte entre 3, 5 ou 10 euros. En fait, c'est un système de tipping. Enfin, tu donnes un peu ce que tu veux, mm-hmm. sachant que le prix d'entrée, c'était donc 3 euros. Moi, j'ai donné 5, hein, voilà, full disclaimer.
On paye nos apps, monsieur.
On paye nos apps et je trouve le résultat très bien. Il y a un gros suivi, il a plein d'idées pour les updates, etc. Donc, si vous aimez bien Reddit, c'est une appli à suivre. J'avais fait une petite news sur Geekzone qui sera linkée dans ce billet.
Et on va reparler de nos amis de 1Password.
Oui, qui viennent de sortir 1Password 7 sur iOS. Parce que là, c'est la grande valse des mises à jour parce que l'iPhone 10 est sorti aujourd'hui. Ah oui. Donc, il faut s'adapter à la taille de l'écran pour essayer de faire ça proprement. Et du coup, bah là, j'ai des updates dans tous les sens. Surtout, j'ai beaucoup trop d'apps sur mes devices iOS, mais ça, c'est mon problème. Donc, je me mange genre 10 ou 15 updates par jour en ce moment. Et 1Password 7, bah, qu'est-ce qu'ils vont gérer? Ils vont évidemment gérer Face ID, puisque c'est la grosse nouveauté de l'iPhone 10. Ils gèrent une nouvelle mise en place de l'information. Ils ont fait en sorte d'habiller l'écran correctement sur l'iPhone 10. Et le truc qu'ils ont rajouté, c'est un truc que j'ai vu arriver du coin de l'œil, parce que c'est quelque chose qu'ils font déjà avec leur possibilité d'authentification en deux étapes. C'est-à-dire que j'avais déjà expliqué, quand vous avez un site, par exemple, comme Google, pour vous connecter sur les services Google, où vous avez votre mot de passe, votre nom, votre mot de passe et un code à rentrer en plus parce que vous avez activé la sécurité en deux étapes, souvent on est obligé de passer par une application tierce. Mmh. 1Password gère ce truc-là en natif. C'est-à-dire que l'application tierce, c'est 1Password.
D'accord.
Et là où c'est vachement cool, c'est que vous rentrez votre truc automatiquement en utilisant l'extension 1Password, que ça soit sur votre téléphone ou sur votre browser. Donc, ça va remplir les champs automatiquement. Et au moment où Google vous affiche la page avec rentrer votre code à 6 chiffres d'authentification secondaire pour la sécurité du truc, ça va le copier directement en fait dans votre presse-papier où il y a que à le coller en fait. Il y a juste à faire, si vous êtes sur votre Mac, Pomme V ou sur votre PC, Ctrl V. Parce que ça marche sur toutes les versions. Donc ça c'est cool parce qu'il n'y a pas de manipulation en plus à faire.
C'est classe.
Et du coup, ça permet de récupérer directement le contenu du presse-papier. Il va se remettre tout seul dans le presse-papier en fait. 1Password n'écrase pas. Il le met de côté, il met ton code dedans et voilà. Donc ce truc là, je me suis dit, attends, il y aurait peut-être un moyen d'automatiser ça dans certains sites où tu n'as pas le nativement accès à la page ou à l'extension. Par exemple, tu as des sites, en tout cas sur iOS, c'était le problème, c'est que tu as des sites ou des applications qui vont mal gérer le fait d'avoir une extension automatisante. Et du coup, ils ont repris ce système de copier-coller automatisé, entre guillemets, et ça marche super bien. Donc ça permet de gagner du temps, c'est-à-dire que vous copiez juste la page du login, vous retournez sur l'application qu'une seule fois, et ça va vous permettre d'avoir dans le presse-papier et votre nom d'utilisateur et ensuite votre mot de passe. Et en fait, il va les intervertir automatiquement.
Ouais, d'accord, ok.
Donc toi, tu copies-colles, tu colles, et en fait, tu n'as pas besoin de retourner trois fois dans l'application ou deux fois dans l'application, tu vois. Il fait le truc directement.
Je vais vraiment finir par retourner chez 1Password, en fait.
En fait, ça, c'est vachement bien. Et en fait, ça, c'est des petits détails. Donc, évidemment, il gère Face ID, nickel et tout. Mais pour être complètement honnête, le seul concurrent de 1Password, pour moi, sur le marché, en termes de fonctionnalité, s'appelle Dashlane. Mm-hmm. Et Dashlane était vachement à la bourre là-dessus. Il commence à rajouter apparemment le tout effet, enfin, la sécurisation en deux étapes de la même manière. Et par contre, je crois pas qu'ils aient ce système de coupe et coller qui est quand même juste terrible. Ouais. Franchement, c'est hyper malin. Donc, de toute façon, c'est la guerre entre les deux et les autres se battent plus sur des notions de prix, etc. Ouais. Sachant qu'en plus, 1Password débarque sur Linux très bientôt, il y a déjà des bêtas qui tournent. Là, ça va être dur de lui trouver des défauts, quoi.
Et on va passer du côté de la culture. Je voulais vous parler en vitesse de deux petites annonces. Une annonce assez surprenante d'un reboot de la série Twilight Zone. Tu te souviens de cette série? Une vieille série des années 50-60.
Source de la plupart de mes cauchemars de gamin.
C'est ça. Donc, c'est une série à sketch, un peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui avec des Black Mirror ou des Channel Zero, des trucs comme ça. Enfin, quoi, Channel Zero, c'est pas vraiment, c'est sur une saison, mais c'est un peu le même principe. On raconte une histoire dans un temps défini et souvent des histoires complètement barrées, fantastiques, un peu bizarres, étranges.
Moi, j'avais été traumatisé par l'épisode où il y a un mec qui adore lire, sa femme ne veut pas qu'il lise, et en fait, tout le monde meurt, il y a une espèce d'attaque nucléaire, et le mec se dit, il a accès à tous les livres de la Terre, et en fait, il casse ses lunettes.
C'était oui, c'est vraiment ça, c'est du Twilight.
Voilà,
du
Twilight Zone, c'est ça, quoi.
Craché. Bref, il y a un reboot qui est en chantier, là, a priori, on a appris ça chez CBS, et ce serait chapeauté par Jordan Peele. Alors, Jordan Peele, c'est lui qui a fait le...
À pas confondre avec Emma.
Non, à pas confondre avec Emma. Jordan Peele, c'est lui qui a fait le Get Out qu'on a vu il y a pas longtemps. Je sais pas si toi tu l'as vu.
Si, je l'ai vu, mais pareil, bonne source de cauchemar aussi. Et pourtant, ça fait pas peur. Je suis d'accord avec ceux qui disent que ça fait pas peur. Ça met juste extrêmement mal à l'aise.
Ouais, et c'est typiquement pour le coup encore un truc qu'on aurait pu voir dans un épisode de Twilight Zone, une histoire un peu barrée comme ça. Donc c'est pas vraiment étonnant que ce soit Peele qui soit mis à la tâche. Alors on sait pas encore pour le moment s'il s'agit d'une commande directe pour une série, une straight to series comme ils disent là-bas, ou si c'est juste un pilote pour voir ce que ça donne et éventuellement si le pilote fonctionne passer à la suite, mais en tout cas voilà, c'est en chantier pour le moment chez CBS. Il n'y a évidemment pas encore de date ou quoi que ce soit, on vous en reparlera si c'est le cas, mais c'est assez intriguant, surtout que c'est quand même un truc assez emblématique de Twilight Zone et puis qui était quand même bien ancré dans les années fin des années 50, début des années 60. Est-ce qu'on va réussir à le moderniser aujourd'hui? Est-ce qu'on risque pas d'avoir un Black Mirror de plus, parce que là, on commence à en avoir un peu beaucoup, mais bon, on verra. Et puis je voulais vous annoncer aussi que pour ceux qui aiment la saison 3 de Ash versus Evil Dead arrive, le trailer est sorti. Ash versus Evil Dead, c'est cette série complètement improbable qui a été lancée par Sam Raimi sur Starz, qui est un tout petit network qui a pas produit grand chose, et c'est une série gore comique, on va dans l'outrancier. Enfin, je sais pas si t'avais vu la série
pas
des films
tout.
Evil Dead, bon voilà, c'est des trucs assez cultes en horreur qui va loin, comédie horror comme ils disent aux États-Unis.
Ouais.
La série est dans le même ton, hein, c'est
enfin, le film je connais
décalé.
Mais je savais même pas qu'il y avait une série, voilà.
Si il y a une série, et c'est débile, il y a des hectolitres d'hémoglobine à chaque épisode, des monstres improbables, ça fait pas vraiment peur, hein, c'est plus de l'horreur, voilà,
comique,
c'est de l'horreur,
enfin,
voilà, c'est ça, c'est de l'horreur
c'est
rigolote,
absurde, quoi.
Voilà, exactement. Et puis bon, le personnage est une espèce de toujours ce vieux beauf, sexiste, misogyne, tout ce que tu veux, donc on en a mal détesté en fait. C'est typiquement le anti-héros, l'archétype du anti-héros, on va dire. Donc voilà, si vous connaissiez pas, c'est chapeauté par Sam Raimi et son fils, je crois. C'est eux qui ont créé ça pour Starz, ça existe donc depuis deux saisons et la saison 3 arrive, le trailer circule. Je vous linkerai ça comme d'habitude dans la news qui accompagne l'épisode de ce podcast, et on va passer du côté de la tech avec des actus du côté de nos amis de Logitech.
Incroyable, vous vous rappelez Logitech, on parlait obsolescence programmée dans le coup de gueule de la semaine dernière.
Oui, on les a bien taillés quand même, hein.
Voilà, mais en fait donc ça venait de chez 01 comme je l'avais dit, et 01 continue en disant tiens c'est bizarre, Logitech nous a contacté, avec un peu la queue entre les jambes, et effectivement ça a été excuse et compagnie, en mode genre mais on comprend pas, c'est pas du tout le but de la société, et donc évidemment puisque c'est le but de zéro société, à part si tu veux fermer ta société actuellement, tu n'as qu'à dire que tu t'en as rien à foutre de l'environnement, ça marche pas trop mal. Mais là globalement les mecs ont dit ok, en fait on sait pas pourquoi, en gros ils retrouvent même pas les ingénieurs qui étaient chargés du truc, bon ok, cette excuse est assez moyenne, mais bref. Et du coup ils ont vraiment dit on va corriger le tir, on va vous mettre sur le site la pile en vente, on va faire une page explicative dans 42 langues pour expliquer comment essayer d'ouvrir cette trappe de merde qui évidemment n'est pas prévue pour, donc ça va rester un problème. Et comme ce modèle de clavier est toujours au catalogue, là il va peut-être falloir faire un petit devis pour voir s'il est possible de corriger cette trappe justement, mais ça veut dire faire des nouveaux moules pour les fabrications, ça veut dire se débarrasser des stocks, etc. Donc ça en revanche c'est pas fait, et on sait pas du tout s'ils vont pouvoir le faire, mais en tout cas bon bah ils ont un peu fait mea culpa et expliqué que c'était pas du tout dans l'air du temps et qu'effectivement les gens avaient bien fait de râler. Mais pour une fois la presse a fait son travail, je tiens à le dire. Pire que ça, la presse tech a fait son travail. Donc
ça mérite des applaudissements.
Mais comme quoi ça peut arriver. Hein, bravo monsieur 01. Donc on vous mettra le lien du papier en question, et si vous avez ce clavier, sachez que tout n'est pas perdu.
Un bon pire nightmare pour Logitech en tout cas.
Exactement.
Et bonne com en revanche du côté d'Apple avec l'iPhone X ou pas?
Bah là en fait, ils ont fait un truc qui a très surpris un peu la presse internationale, comme dirait l'autre. Apple, tout le monde connaît. iPhone, tout le monde connaît. Et ils se sont dit, alors attendez, maintenant, les gens qui ont la main mise sur les porte-monnaies sur la planète, c'est les femmes. Mmh. Et c'est celles qui achètent le moins de produits Apple. Et surtout sur la classe d'âge qui vise avec l'iPhone, c'est vraiment, je crois, 25% à peine de gens qui possèdent des produits Apple. Mmh. Donc les femmes ayant ce pouvoir, ils se sont dit, on va faire du YouTube, on va choisir des gens que les femmes regardent, ou un petit peu, etc. Mais en gros, ils n'ont pas du tout déroulé le tapis rouge pour les gros tech blogueurs classiques.
D'accord.
Qui ont eu accès au téléphone 24 heures, etc. Donc on vachement fait de premières impressions, mais pas pu faire de vrais tests, et du coup, qui ont râlé, sachant que la qualité du travail et des tests des autres n'était pas, extraordinaire. Mais qu'elle était, enfin, c'était en ligne avec ce qu'Apple voulait, justement. C'était ouais, des mecs qui disaient, ah, waouh, l'écran génial, emoji, machin, qui fait caca, trop drôle et tout. Bon, bah, super. C'était exactement ce qu'ils voulaient. En vrai, ils voulaient ce genre de communication pour aller chercher un nouveau public, puisque l'autre, ils l'ont, quoi qu'il arrive.
Ouais, donc,
et ils s'en foutent, entre guillemets. Et ça a fait grincer pas mal dedans. Bon, maintenant, je pense que ça va être un petit peu un classique chez eux, et quelque part, je suis pas surpris parce que, on va pas se mentir, les autres le font déjà, hein. Donc il y avait un moment où Apple devait commencer. Ce qu'on voit des premiers tests et des gens qui ont été livrés, puisque je vous rappelle que les gens normaux commencent à être livrés depuis aujourd'hui, c'est que première nouvelle, Face ID ça marche.
Allez.
On est désolé, hein. Pardon. Donc Face ID ça se déloque même plus vite qu'avec Touch ID, incroyablement. Sauf quand on est un blogueur. Non, il y a un journaliste de Reuters, donc tu vois Reuters, la grosse usine à news où tu prends quand même des mecs qui ont fait des études, qui a raconté de la merde en fait en disant « Oui, mais c'est vachement long parce que regardez, il faut faire comme ci, comme ça. » En fait, le gars a pas compris comment ça marchait. Donc, il s'est fait reprendre de voler par pas mal de blogueurs Apple en mode genre « Mais oui, mais mec, en fait, c'est pas comme ça que tu fais, quoi. » Donc, pourquoi il faisait deux manips alors qu'en fait, quand tu veux le déloquer ton téléphone, tu l'attrapes. Quand au moment où tu l'attrapes, en fait, tu sais maintenant, et l'écran s'allume automatiquement, il détecte qu'il a été levé. Mais du coup, comme tu l'as attrapé, t'es déjà en train de regarder ton téléphone, et le temps qu'il arrive à toi, il est déloqué, en fait.
D'accord.
Donc, il est déjà... si t'as désactivé le Raise and Wake, au moment où tu touches l'écran, maintenant, il s'allume, en fait. Il y a déjà ça sur des téléphones Android, c'est pas une nouveauté. Mmh. Et ce truc-là, c'est pareil, t'appuies, tu tapes sur l'écran, tu le regardes, bim, il va se débloquer, t'arrives sur le springboard, donc le dashboard de iOS, et ça fonctionne donc ultra vite, les mecs disent que c'est très bien, et les rares qui disent, ça marche pas bien, blablabla, il y a apparemment un cas de figure où le Face ID galère, c'est quand t'es en méga plein soleil.
D'accord.
Ou avec un halogène derrière toi. Pourquoi ? Parce que t'as la caméra qui va faire l'illumination de ton visage, qui envoie les points sur ta gueule. Mais le problème, c'est que s'il y a une énorme source de lumière derrière toi, la caméra chargée de voir ces points va galérer.
D'accord.
Mais c'est un cas de figure ultra rare, et le cas le plus connu, c'est quand t'as pas de lumière. Là, en revanche, ça marche super bien, parce que la caméra n'a aucun problème à voir les points infrarouges qui sont ceux qui illuminent ton visage, donc il y a aucun souci. Donc ça, c'est la première nouvelle. L'autre truc, c'est qu'effectivement, il faut réapprendre à utiliser un iPhone, puisque quasiment toutes les manips classiques changent, vu qu'il y a plus de bouton Home. Tous les trucs pour les screenshots, l'accès aux notifications, les control center, le multitâche, il y a des nouvelles manips à apprendre. Tous les mecs disent que ça prend à peu près 2 heures, et c'est aussi le temps que ça prend pour ne plus voir le notch, donc l'encoche en haut où justement il y a les caméras qui gèrent le Face ID, qui tout le monde a fait genre
ça râle toujours les dessus moche. En fait
il y a, non, tu trouveras toujours des mecs pour râler, mais là tous les mecs qui l'ont en main et qui l'ont testé réellement disent oui, quand je l'ai déballé, j'ai vu que ça, et puis au bout de 2 heures, tu l'utilises, en fait, tu vois plus du tout, quoi. Donc, apparemment, faux problème, comme souvent, j'ai envie de te dire, hein. Je vous ressortirai pas tous les dossiers sur Touch ID, par exemple, quand c'était sorti à l'époque. Reste à voir les vrais problèmes, les vraies questions, et ça va demander un petit peu plus de temps, c'est l'autonomie, comment ça se passe. La solidité du produit, je vous dis pas de le jeter par terre, c'est un newsflash, quand vous jetez un téléphone par terre, il a tendance à se casser. Quel que soit le prix du téléphone, t'as juste plus mal effectivement à l'arrière-train quand il coûte plus de 1000 balles, mais j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de surprise de ce côté-là.
C'est ça.
Donc, non, parce que j'ai vu des news quand même, genre, mon Dieu, quand tu le pètes, ça coûte 279€ pour changer l'écran. Vu l'écran, enfin, en même temps, le but du jeu, c'est pas de le faire tomber quelque part.
C'est ça.
Pour autant, vous êtes pas obligé de le mettre dans une énorme coque dégueulasse, comme j'ai pu voir déjà sur Internet, sur Twitter. Quand t'achètes un truc avec un design pareil et que t'as pu, évidemment, tu veux pas le casser, donc t'as tendance à mettre des coques, des protections, tu vois. Mais j'ai vu des mecs aller assez loin dans le délire, tu vois, avec des coques batteries, t'as l'impression que le mec se balade avec une Xbox One. Donc, c'est pas très joli. Il existe des coques relativement saillantes pour ce téléphone. Faites des recherches. Et du coup, bah, à part ça, le seul truc que moi, je vais lui reprocher, et on verra à l'usage, mais apparemment, c'est pas si dramatique, c'est qu'il ne réagit pas comme un iPhone Plus. Parce que l'écran, fondamentalement, est plus grand, mais en fait, en taille réelle exploitable, il est plus petit qu'un iPhone Plus.
D'accord.
Parce que il y a la barre en bas, comme tu n'as plus le bouton Home, t'as une zone, en fait, qui sert à rien en bas, qui évite de faire des mauvaises manips, si tu veux.
Ouais.
Donc, le clavier est un peu plus haut que le bas physique de l'écran.
D'accord.
Et l'autre truc, c'est que du coup, quand tu le mets en mode landscape, bah, tu vas pas forcément avoir la réaction que tu as sur un iPhone Plus avec donc un 8 Plus, un 6S Plus, etc. Où tu vas avoir une sorte de mini iPad dans les mains, si tu veux.
D'accord.
Là, tu vas vraiment rester dans un fonctionnement iPhone classique. Et quand tu viens d'un plus, bah, des fois, ça peut énerver. Donc, il faut être au courant de ça. Après, je pense que c'est pas dramatique non plus. Je pense qu'il y a plein de gens qui utilisent un iPhone depuis très longtemps qui ne verront absolument pas ce problème. Mais à titre perso, c'est le seul truc qui risque de me faire couiner sur certaines apps. Mais bon, voilà, ça reste un téléphone qui apparemment a su séduire tout le monde. Et Apple a dû fouetter des gens quelque part puisque les dates de livraison ne cessent de raccourcir malgré les ventes. C'est-à-dire que les gens qui ont précommandé avec 5 ou 6 semaines d'attente se retrouvent aujourd'hui à 3 ou 4 semaines. Il y a des gens à qui on avait dit vous l'aurez fin décembre ou mi-décembre et leur date de livraison était rapprochée à fin novembre voire mi-novembre.
Allez.
Donc bah, en Chine, je pense qu'ils ont un peu fait de la magie. et si vous voulez, maintenant, il y a même, je sais plus comment il s'appelle, SkyTracker, enfin il y a un site qui permet de suivre les avions, qui ont mis en place un truc pour suivre avec ton numéro de commande, pour savoir dans quel avion est ton iPhone. Ça va quand même. Comme quoi,
ça va loin.
Tous les mecs qui peuvent essayer de faire du clic avec l'iPhone le font. Je trouve ça assez incroyable.
La vraie question, c'est quand est-ce que toi tu vas craquer?
Écoute, pour l'instant, tu
toujours
vois,
pas.
J'ai un truc qui est super efficace. Hein. C'est mon compte en banque.
C'est ça.
Et là, pour l'instant, si tu veux, je regarde mon 6S Plus et je me dis, non, vraiment, non, je peux le changer. Et puis à chaque patch, tu vois, d'iOS 11, il va plus vite et tout. Donc, je suis là genre, j'aurais bien un nouvel appareil photo et tout. Mais comme moi, je veux la version 256Go en plus que je suis un abruti, bah, ça va être 1 350 €.
Oui, quand même, ouais.
Pas tout de suite.
Pas encore le Patreon qui va bien.
Ouais, plus de parmesan, les mecs.
Et c'est l'heure du round, ça.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux. C'est de la merde.
Et aujourd'hui, on va pas taper sur Google, mais on va taper sur les gens qui s'étonnent des pratiques de Google.
Alors, on va taper sur plusieurs choses, mais on va taper vite parce que c'est plus une anecdote qu'autre chose. C'est que des journalistes se sont horrifiés cette semaine d'avoir été bloqués de leurs papiers qui étaient sur Google Drive ou sur Google Docs avec un petit message genre ce que vous êtes en train de faire, votre document n'est contraire à nos guidelines. Donc, stop, monsieur. Et là, du coup, si t'imagines, t'as Word qui te dit, tu es en train d'écrire un pamphlet anti je ne sais pas quoi.
Ouais, c'est ça.
Tu vas t'arrêter tout de suite.
Shut down.
C'est interdit. T'imagines, t'as pas le temps de finir d'écrire le truc, c'est niette. Et là, tout le monde, genre, oui, mais Google qui nous espionne, quelle horreur et tout. Alors, ça me fait rire parce que c'est la nature du deal quand tu bosses avec des produits Google. C'est gratuit, peut-être. C'est en fait, bon, bah, les mecs, on sait qu'ils regardent les datas, etc. C'est automatisé. Il n'y a pas un mec en train de cliquer pour voir ce que vous êtes en train d'écrire. Hein. Vous êtes des millions, voire des milliards à utiliser leurs produits.
Évidemment,
c'est
foutre, ouais.
Voilà, c'est automatisé. Et en fait, le fond de l'histoire, c'est qu'évidemment, c'était un bug. Mais ce bug a mis en lumière un truc, c'est que tous les documents que vous mettez sur Google Docs sont scannés.
Bah oui.
Et là,
je comprends pas qu'on peut être surpris de ça, quoi.
Mais c'est ça qui est génial. Moi, je trouvais ça fabuleux. Les mecs, genre, oh là là, on nous espionne. Mais t'as cru quoi? Vous êtes stupide ou quoi? Si vous voulez que vos emails soient pas scannés pour les pubs ou savoir ce que vous avez envie d'acheter à Noël, allez chez Fastmail. Faites votre propre serveur de mail. Mais restez pas chez Google en vous disant, putain, Gmail, c'est trop bien. C'est quand même cool que ça soit gratuit. Vous imaginez le prix que ça coûte de faire tourner Gmail pour vos beaux yeux? Vous imaginez le prix que ça coûte de faire tourner YouTube pour vos beaux yeux? Non, mais il faut arrêter d'être stupide. Évidemment qu'il y a un moment où les mecs gagnent de l'argent. Toute la réaction autour de ce truc m'a fait halluciner. T'as l'impression que les mecs découvrent le Père Noël n'existe pas. Pardon, oui, parce que je voulais vous dire, le Père Noël n'existe pas. Donc, faut arrêter, quoi. C'est ridicule. Donc oui, les trucs sont scannés. Non, c'est pas des gars qui sont en costume gris, qui regardent tout ce qui passe. On n'est pas dans Stranger Things, on en parlera la semaine prochaine. Mais très honnêtement, c'est une réaction qu'il faut arrêter d'avoir. Il faut être conscient de ça. Et puis derrière, si ça vous dérange, bah, prenez vos dispositions, c'est tout, quoi.
Les gens.
Hashtag les gens.
We'll be right back. Et c'est la fin de ce 24e épisode de Torréfaction qui sera arrivé un petit peu à la bourre. On est désolé, encore une fois, c'est 100% ma faute. Et ce sont des choses qui arrivent, mais on voulait quand même que vous ayez votre petit épisode aujourd'hui. Donc bah voilà, on a pris le temps de le faire cet après-midi. Et on se retrouve la semaine prochaine à 9h, normalement, si tout va bien.
Si tout va bien, et puis de toute façon, dis-toi que c'est pas grave, ils écouteront ça dans la voiture, dans les embouteillages, en rentrant de leurs grandes vacances.
Voilà.
Je suis sans pitié avec vous, les gars.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, ciao.
D'accord. Attends, je vais arrêter deux secondes parce qu'il est en train de jouer avec un truc derrière.
Mais je sais, je l'entends tout à l'heure. Je fais, putain, c'est qui bouffe avec des baguettes chinoises?
C'est ça. Elle est allée chercher les baguettes dans le lavabo et genre, j'arrive.
Connasse! Allez! Hé! Et tu sais que tu peux pas en plus. Grosse relou.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks.